Ce soir, les trois coups des rencontres Giono.
Pendant 5 jours jusqu'au 4 août, Manosque va célébrer cet écrivain magnifique et qu'on nous envie un petit peu partout sur Terre, Jean Giono, avec nous pour en parler, le président des Amis de Jean Giono et qui est aussi un ami de Fréquence Mistral. Bonjour Jacques Méni.
Bonjour François.
Avec cette 13e édition des Rencontres Giono, vous allez célébrer les héroïnes romanesques. Quel beau programme!
Oui, pareil que c'est un beau programme.
On va rentrer en détail dans ce programme.
De bons retours sur le programme qui, j'espère, va attirer la même fréquentation que les autres années. Va peut-être l'augmenter. Et c'est un beau sujet, oui, parce que finalement, on peut se poser la question, est-ce que Giono, dont tout le monde sait qu'il aimait les femmes, est un romancier... féministe ou du féminin, on peut se poser la question parce que il y a chez Giono un côté machiste, voire misogyne à certains moments, et en même temps, il crée de grandes figures féminines. Et plus l'œuvre évolue, plus ces figures deviennent vraiment exceptionnelles, je dirais. Ce qui est très passionnant dans cette histoire, c'est de voir l'évolution, comme toujours chez lui d'ailleurs, qui est en évolution permanente. Mais on part de femmes ou de jeunes filles qui ont connu des déboires, hein. C'est Angèle qui est mise sur le trottoir par un maquereau et qui est après séquestrée par son père parce qu'elle a eu un enfant, et qui va être sauvée par le bel Albin, qui vient de Beaumune, dans une Beaumune. C'est Mademoiselle Arsule qui va refonder le village d'Aubignan avec Panturle, mais qui vient de loin elle aussi, qui a été violée, qui a été artiste dans un théâtre minable, etc., qui a à peu près servi à tout, c'est des muscles et mouleurs, enfin bon là, on a des après on va avoir des femmes au foyer, on va avoir des femmes qui sont du côté de l'intérieur pendant que les hommes sont dans les tempêtes, les orages, les grands vents, etc. Et certaines commencent à s'en plaindre d'ailleurs dans les deux cavaliers de l'orage. Et puis parallèlement, on est toujours dans les années 30, on a des jeunes filles qui sont souffrantes, malheureuses, qui vont jusqu'au suicide. Les jeunes filles et les femmes se suicident pas mal chez Giono, surtout avant la Seconde Guerre mondiale. Et avec la Seconde Guerre mondiale, on voit apparaître les grandes belles figures. Alors, aristocrates de l'âme ou aristocrates tout court, comme Pauline de Théus dans Le Hussard sur le Toit, mais Adelina White, dont Melville Giono va tomber amoureux. White comme Blanche. C'est même lui qui fait remarquer à la dame en question que White ça veut dire blanche. Et puis ensuite on va avoir des personnages de plus en plus forts dans tous les sens du terme, où elles sont énormes comme Edmond, où elles sont manigancières, elles sont toujours à l'affût, comme un furet, dit Thérèse en parlant d'elle. J'étais comme un furet à l'affût pour sucer le sang. Donc c'est Thérèse des âmes fortes, c'est Edmond, c'est ces personnages qui ont des caractères exceptionnels et qui finalement font passer les personnages féminins de Giono d'un certain ordre traditionnel avec des archétypes, etc., à une sorte de désordre, parce qu'elles conquièrent leur autonomie, leur liberté, elles deviennent puissantes, ce sont des femmes de pouvoir, ou qui prennent le pouvoir, parce que elles seules se reconnaissent le droit de trouver la méthode pour leur contentement. C'est le grand mot que j'emploie souvent Giono. Elles trouvent leur contentement, mais pas dans le rôle traditionnel de la femme dans un milieu, disons, ancestral. Voilà.
Donc c'est une excellente idée que de rendre hommage à tous ces personnages féminins de l'œuvre de Giono, avec ces différences que vous avez citées en termes de période et de chronologie dans l'œuvre de Giono. Vous avez pour cela un beau programme pendant 5 jours, du théâtre, des concerts, des lectures, même un film qui sera projeté, on va en parler, et évidemment des conférences, débats, cafés littéraires. Ça commence quand? C'est aujourd'hui, je crois, Jacques.
Ça commence ce soir, mardi, au Théâtre Jean Lebleu, avec Marie-Christine Barrault. Trois textes de Giono, finalement j'en ai retenu que trois parce que c'était un peu long, que j'ai titré Dame de caractère. Alors on aura Céline de Théus, la belle-sœur de Pauline, grande figure du roman Angelo. On aura la duchesse Ezzia, la mère d'Angelo, qui adresse cette lettre magnifique à son fils dans le roman, hein. soyez audacieux, soyez téméraire, soyez imprudent, mon fils, etc. C'est l'esprit de la lettre. Et puis enfin, l'interrogatoire de la belle marchande par le juge dans, imaginé par Tringlot dans Les Rises de Suse, le dernier roman de Genot. Genot avait une véritable passion pour ces personnages réels, parce que l'interrogatoire part d'un interrogatoire réel pour après devenir du Genot. Les brigandes qui faisaient le coup de feu, qui faisaient le, qui s'habillaient en homme, et qui, faisait de la rapine avec les hommes
dans les grands chemins, quoi.
Dans les bois sur les grands chemins, dans les bois à la, sous le directoire et le consulat, et ça s'est passé ici.
C'est Marie-Christine Barrault, c'est pas n'importe qui vient faire cette lecture. C'est une grande actrice, grande lectrice aussi, qu'on avait déjà appréciée au Paraïs pour une lecture auparavant, et qui retrouvera Manosque avec grand plaisir. Et en plus de ça, elle va être accompagnée par deux musiciens fidèles des Rencontres Journaux.
Oui, fidèle et magnifique, hein. C'est Olivier Le Chardeur, pianiste, qui est professeur de musique de chambre au Conservatoire d'Aix-en-Provence. Et puis, la belle et la chère Laurence Monti, qui est la super soliste de l'Opéra de Toulon au violon. Voilà.
Avec des œuvres de Mozart, Schubert, Beethoven, Brahms, etc. C'est ce soir, donc, à 21h, une lecture musicale, Marie-Christine Barrault qui lit Jean Giono. Auparavant, il y a juste une petite parenthèse, c'est le cas de le dire, c'est la parenthèse du mardi qui est proposée par le Centre culturel et littéraire Jean Giono, qui aura lieu au Paraïs, avec plusieurs lecteurs.
Oui, Marie-Christine peut-être pas, parce qu'elle sera entre sa répétition et le spectacle, donc c'est un peu difficile pour elle, mais tous les autres lecteurs, Geneviève Esménard, Alice Mora, Sophie Brochet, Philippe Fréchet et Daniel Anivelle, qui met en scène une adaptation du Grand Troupeau, des personnages féminins du Grand Troupeau aussi, seront là pour finalement discuter de la question... Comment lire Giono? Est-ce difficile? Est-ce facile? La place de l'oralité dans l'œuvre de Giono est importante. Donc, est-ce que ça facilite les choses? Comment retrouver la musique, les rythmes de cette prose poétique? Voilà.
Ça, c'est à 18h30 au Paraïs.
Ce sera la bonne franquette, mais chacun donnera un peu son expérience de la chose.
C'est une bonne chose. Et puis, ça permettra des rencontres aussi avec les artistes, oui, et les lecteurs qui sont là. Donc ce soir, Marie-Christine Barrault. Et puis on continue mercredi avec un concert.
Oui, alors on a un concert à la Fondation Carzou avec... sous la direction de Anna Kogan, la pianiste, qui est déjà venue, c'est la troisième fois qu'elle vient depuis 2012. C'est une amie, c'est la fille d'un grand spécialiste de Giono, Jean-Yves Lorichès, entre autres, mais elle est toulousaine, elle fait des concerts avec des formations de dimension ou de timbre variable, puisque là, elle était venue avec une accordéoniste une fois, et là, elle vient avec une violoniste et un flûtiste pour un programme Mozart, Beethoven, mais aussi Shostakovich ou Jacques Ibert, des musiciens plus actuels.
C'est donc mercredi 1er août à la chapelle de la Fondation Carzou à 20h30, voilà. Avec une participation qui est libre aussi, il faut le dire, pour les artistes.
Il n'y a que les soirées théâtrales qui sont payantes, voilà.
On rentre dans le vif du sujet avec des rencontres et des lectures très importantes à partir du jeudi 2 août, où on va parler de La femme du boulanger, on connaît bien ici à Manosque et du côté de Pierre Vert aussi, et des Métamorphoses d'Hélène de Troyes.
Oui, alors, parce que La femme du boulanger, Giono appelle, surtitre ça dans Jean le Bleu, l'enlèvement d'Hélène. Évidemment, tout l'épisode de La femme du boulanger, tel qu'il le décrit, c'est une sorte de reprise, d'actualisation de l'Iliade. Hein. Le berger a enlevé Aurélie, la femme du boulanger, comme Paris enlève Hélène, et tout s'ensuit dans l'imagination de Giono, parce qu'à ce moment-là, il découvre l'Iliade, donc pour lui, les deux choses ne font qu'une. Et donc, tout se développe, les moissons deviennent les combats des guerriers troyens et grecs, etc. etc. Et donc, le personnage d'Hélène de Troyes est très malmené par Giono, mais il est malmené par tout le monde. Par exemple, Jean Giraudoux, dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, dont on parlera aussi, ou même Offenbach dans La belle Hélène, ce sera d'autres allusions. Il y a toute une histoire d'Hélène dans la littérature, et c'est tout à fait étonnant de voir comment vraiment à la fois elle est malmenée par les auteurs et combien elle retient leur attention. Parce que bon, chez Giono, on va trouver aussi dans cette première, qu'est-ce que c'est, qui est Aurélie, la femme du boulanger? Est-ce que c'est la femme malheureuse parce que c'est visiblement un mauvais mariage, enfin un mariage elle n'est pas adaptée en tout cas à son mari. Est-ce que c'est vraiment la séductrice, la tentatrice, la femme qui attire au mal entre guillemets, voilà, il y a toute cette dimension là et qui est aussi la dimension d'Hélène. La fatalité passe par Hélène, c'est elle qui est le déclencheur de cette mythique guerre de Troie, qui est quand même, dont l'épopée est fondatrice de notre civilisation. Donc c'est un personnage intéressant. Donc ce sera développé toute une matinée avec différents extraits de films,
des illustrations,
extraits de textes, voilà.
L'après-midi, c'est pareil, il y a des rencontres avec plusieurs personnages.
Un panorama général, disons, ce que je disais en introduction, de voir comment d'un certain conformisme, les héroïnes de Giono deviennent des personnages stupéfiantes, comme nous le dira Julie Malon, qui a consacré sa thèse de doctorat et ses lettres, justement, aux femmes dans l'œuvre de Giono, sous le titre d'ailleurs du désir de désordre.
L'après-midi, il y a l'inauguration de l'exposition Giono et Melville, Moby Dick, bien sûr.
Au centre culturel et littéraire, c'est... Jean Giono, oui, voilà.
Et puis, le café littéraire, c'est toujours un grand moment, parce que là, on découvre des auteurs et des œuvres magnifiques. Alors, on va les citer dans le désordre, Jean-Claude Héléna, qu'on connaît bien, Gilles Lapouge aussi,
oui.
Catherine Soulard, Pierre-Guillaume Deroux, qui j'ai oublié.
C'est l'éditeur, Pierre-Guillaume Deroux.
Bernard Loyer, notre ami Bernard.
Oui, qui présentera ses poèmes. Et puis là, pour une fois, ce qui n'est pas le cas tous les ans, on a des ouvrages de critique jeunienne, des actes de colloque, etc. Et aussi notre amie Agnès Castiglione, présidente des Amis de Pierre Michon, qui vient de faire un magnifique cahier de Lerne Michon, qui a un très grand succès et qui viendra nous en parler. Donc ce sera très éclectique, parce que le livre de Jean-Claude Héléna est magnifique, c'est vraiment l'itinéraire de sa vie et de sa vie de compositeur, d'écrivain d'odeur, comme il dit, mais de compositeur de parfum.
Je rappelle que Jean-Claude Héléna, c'est un nez d'Hermès.
Était le nez d'Hermès. Voilà. C'est l'auteur de Terre d'Hermès et lui considère que créer un parfum, c'est une œuvre d'écrivain. Et Gilles Lapouche, qui sera peut-être bientôt le doyen des écrivains en activité, parce que Gilles doit avoir 94 ou 95 ans.
Toujours bon pied bon oeil.
Toujours bon pied bon oeil.
Manosque.
Il vient de faire un livre superbe qui s'appelle Atlas des paradis perdus. Et parmi les paradis perdus de cet atlas, il y a Digne, puisque c'est la ville où il a grandi.
Sa ville natale.
Voilà.
Le soir, il y a une petite soirée au Jardin du Paraïs qui sera consacrée à un des personnages emblématiques de Jean Giono, qui est Edmond. Et c'est Alain Bauguil qui s'y colle, un grand spécialiste de cette personnalité.
Alain Bauguil il ne le lit pas, il le sait par cœur, Edmond, depuis 12 ou 13 ou 14 ans, hein, je pense. Mais beaucoup de nos amis ne l'ont jamais vu, donc c'est une occasion de le reprendre.
Et ce sera une belle occasion, voilà. Consacrée en plus à un personnage emblématique de Giono, qui est Edmond. Le lendemain, vendredi 3 août...
C'est Les Femmes parlent des Femmes, hein, c'est que des spécialistes de Giono, c'est Sophie Brochet qui fera les lectures, donc un plateau de femmes qui ont choisi chacune de nous présenter ou un aspect à travers une ou deux héroïnes de Giono, ou une héroïne. Et là, on aura vraiment, je crois, eu tout l'éventail, ou presque, du personnel romanesque féminin de Giono. Voilà.
Et puis, dans l'après-midi, c'est le centenaire de la fin de la Grande Guerre.
Voilà, enfin. Et c'est Les Femmes dans la guerre de 14. En réalité, tout est parti de là. Comme c'était 2018, oui. J'ai d'abord pensé à cette séquence-là, et après, ça s'est élargi. Mais c'était pour revenir sur en effet, cette vie des femmes sur le plateau de Valensole dans le Grand Troupeau, donc Julia et Madeleine. Et comme Daniel Anivel, depuis longtemps, pensait aussi s'intéresser à ce roman et à cet aspect du roman, que moi-même je connaissais bien parce que je l'avais adapté pour le cinéma, mais j'ai pas tourné le film, j'ai fait le scénario dans cet esprit-là, de privilégier l'histoire des femmes, qui est quand même la première grande émancipation, même si tout rentre plus ou moins dans l'ordre patriarcal à la fin, quand les hommes reviennent. Mais non, là, on est quand même déjà dans un mouvement qui se met en route vers une certaine émancipation des femmes.
Et c'est donc l'après-midi au théâtre Jean-Leleu.
Et le soir, donc, Julia et Madeleine dans La Tourmente avec Alice Mora, dans une mise en scène Daniel Nivelle, qu'on coproduit avec l'association Alexandra Davinel, qui leur prendra pour les journées Alexandra Davinel le 29 septembre, qui seront consacrées justement au thème du féminisme.
Très bien. Entre-temps, il y a la promenade musicale aussi, qui est toujours un moment fort, avec des découvertes de musiciens magnifiques.
Et
qui
puis Pauline
là.
Courtin, magnifique mezzo-soprano, qui sera accompagnée au piano à queue, qui va être installée à Notre-Dame de Romigier, ce qui est toute une opération technique lourde, et qui va chanter des airs sur l'infidélité, qui viennent de Mozart, Massenet ou Poulenc. Et puis, l'Opus 99, le trio magnifique de Schubert par Laurence Monti, Olivier de Chardin, Frédéric Lagarde, à la Fondation Carzou. C'est toujours un grand moment, la promenade musicale. C'est pour ça que depuis 2012, je le maintiens chaque année. Il y a des rituels qui se sont créés dans cette manifestation.
Avec une découverte aussi pour beaucoup, oui. Certainement, c'est le nickel arpa.
Nickel arpa,
cet
oui.
Cet instrument, oui. La vielle à archer, oui. Que jouent nos amis suédois et qui résonnera à l'église Saint-Sauveur. Ça promet d'être magnifique.
On termine samedi avec un hommage pour son centenaire qui sera l'année prochaine, mais à Jacqueline Lerat, qui était la fille d'un ami contadorien de Giono qui a été fusillé par la milice à Mâcon en 1944. Jacqueline Lerat, grande céramiste, disparue presque à 90 ans en 2009, et dont il y a des pièces dans la maison de Giono, et qui a travaillé à Bourges pendant longtemps. Ensuite, une surprise avec une lecture de textes encore autour des femmes, mais sur un certain aspect des femmes chez Giono, femmes en métamorphose, et on apprendra en quoi Giono les métamorphose par l'écriture. Et enfin, la clôture avec Cinéma sous les étoiles dans les jardins de la maison de Giono. Est-ce la dernière fois? Je ne sais pas. On le fera ailleurs. Mais c'est toujours agréable de voir un bon film. Alors, L'aventure de Madame Muir de Mankiewicz avec Jane Tierney et Eric Sorison, c'était un des films préférés de Giono. Cette histoire d'amour extraordinaire entre une jeune veuve et un fantôme, et laquelle va raconter son histoire, et qui est son histoire, et va rencontrer un éditeur qui va devenir son nouveau mari. Donc, il y a tout le romanesque, tout le côté gothique aussi, dans les décors, dans l'approche de cette histoire, avec tout ce qu'on connaît de Rex Harrison, cette espèce de distance ironique qu'il avait, acteur fétiche de Mankiewicz. Mankiewicz, je rappelle, c'est La Comtesse aux pieds nus, ou dans L'été dernier, Cléopâtre, Le Limier, qui est passé récemment sur Arte. Donc, c'est son premier chef-d'œuvre vraiment à Hollywood. Grand cinéaste.
Certainement une grande émotion de voir ça.
C'est un noir et blanc sublime.
Peut-être que Jean Giono sera là d'ailleurs et qui poussera.
Il avait vu beaucoup de films de Mankiewicz. Et Jules César avec Marlon Brando, que Giono aimait beaucoup.
Il y a deux petits temps forts aussi à l'extérieur de Manosque. Évidemment, chez nos amis Marc et Isabelle Gaucheran, c'est à Bannon, à la librairie Le Bleuet, c'est samedi après-midi.
Oui, on a commencé d'ailleurs hier soir par un nocturne au Bleuet, chez Marc et Isabelle, au Bleuet.
Et donc, ce sera un grand moment avec tous les écrivains qui seront présents, voilà. Bien sûr. Et puis, à voir jusqu'au 29 septembre le voyage plutôt de Lucien Jacques en Égypte. Ce sont ces superbes aquarelles à voir à la médiathèque de Gréoux-les-Bains. Bref, c'est une belle manifestation. C'est la 13e édition des Rencontres Giono. Ça se passe à Manosque. Et rendez-vous ce soir, donc, aussi bien au Paraïs, 18h30, et puis bien sûr à la soirée lecture organisée par les amis de Jean Giono avec Marie-Christine Barrault, qui lira des choses magnifiques écrites par Jean Giono. Merci beaucoup, Jacques Méni.
Merci, François.
Et à bientôt.